Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer les retables de Flandre. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un retable ? Alors il s'agit d'un monument qui est érigé derrière le maître-autel dans l'église, où souvent on représente le Christ, bien sûr, mais aussi le saint local, celui qui est auquel l'église est dédiée. Ce type de monument existe déjà depuis bien longtemps, puisque dès l'an 1220, suite au concile de Latran, qui a décidé de redéfinir le rituel de la messe, il a été décidé donc de, en quelque sorte, illustrer le maître-autel par les retables. Mais c'est surtout au XVIIe siècle que ce type de monument va prendre particulièrement son essor en Flandre, tout particulièrement, sans en avoir vraiment l'exclusivité, puisqu'on retrouve aussi des retables en Bavière et en Autriche. Mais sur la Flandre, il y a une telle concentration qu'on peut dire que c'est vraiment un phénomène très particulier à cette province donc flamande. Alors pour évoquer pourquoi ces retables ont été mis en avant au cours du XVIIe siècle et début du XVIIIe, eh bien tout simplement nous allons faire bien sûr un petit retour en arrière. Et encore une fois, bien sûr, il faut regarder les choses non pas avec nos critères d'aujourd'hui, mais bien se remettre dans l'ambiance d'hier où les critères, les valeurs n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui.
Thank you.
le groupe Faune, vous interprétez une chanson médiévale intitulée Tinta. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc aujourd'hui le retable. Alors le retable, c'est un monument donc qui est construit de façon verticale, hein, qui est composé de très nombreux décors et représentations bien sûr du Christ, mais aussi du saint local, du saint auquel est dédié l'église. Il y a plusieurs panneaux, des fois ce sont des triptyques, on dit, hein, donc où bien sûr on fait appel aussi bien à des sculpteurs, mais aussi à des peintres pour bien sûr orner ce monument. Le retable est aussi une façon bien sûr de faire passer des messages auprès des paroissiens. Il peut être construit en plusieurs types de matériaux, voire en composé. Les plus riches bien sûr ont du marbre, voire de l'ivoire. Bien souvent ce sont bien sûr de la pierre et du bois. Alors, évidemment, pour expliquer cet essor en particulier des retables en Flandre au XVIIe siècle, eh bien, il faut faire un petit peu une page d'histoire, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ces retables ont eu, disons, pris naissance avec la politique de contre-réforme qui a été menée par les autorités de l'époque. Alors, pour expliquer tout ça, eh bien, il faut se replonger donc au XVIe siècle. À l'époque, l'Église catholique domine bien sûr l'Europe et évidemment, elle a une mainmise totale sur les populations. D'ailleurs, elle contrôle l'enseignement puisque la lecture de la Bible est réservée uniquement aux gens initiés, c'est-à-dire aux prêtres, aux moines. Mais évidemment, les progrès de l'imprimerie vont bien sûr permettre la diffusion au plus grand nombre de la Bible et évidemment de plus en plus de personnes. Disons, les lettrés vont prendre connaissance de ce livre et vont bien sûr avoir une lecture un peu critique et voir aussi un petit peu, ce que veut faire passer les autorités catholiques de l'époque et par rapport aux écrits qui sont bien sûr dans ce livre qu'est la Bible. Et puis, il y a aussi une autre affaire qui va, elle, mettre le feu aux poudres. C'est ce que l'on appelle le commerce des indulgences. Alors, nous sommes à une époque où, malheureusement, il y a beaucoup d'épidémies, des guerres, de violences menées par des mercenaires en quête de butin, bien sûr, prêts à vendre leur âme à celui qui les paie le plus. Et naturellement, ils circulent à travers les campagnes, semant bien souvent la désolation et la mort. Le taux de mortalité est tel que, évidemment, les gens pensent que la mort est un compagnon au quotidien et évidemment chaque bon chrétien espère bien pouvoir gagner son paradis. Aussi l'Église instaure ce qu'on appelle un commerce, le commerce des indulgences, afin de bien sûr d'aider à rejoindre donc le paradis et plutôt que le purgatoire voire l'enfer. Et donc les moines et les prêtres monnaient ainsi l'accès au paradis. Cet argent ainsi récolté, naturellement, rentre dans les caisses de l'Église et il y a une dérive, hein, évidemment, puisque petit à petit, les religieux demandent toujours de plus en plus d'argent et certains monastères, certains moines vont vivre dans un grand luxe parmi une population de plus en plus misérable, si bien que ça va créer, comme vous pouvez l'imaginer, de réelles tensions. Et c'est ainsi qu'un moine, Martin Luther, refuser de rentrer dans cette approche du commerce des indulgences. Et c'est ainsi qu'il va placarder sur le portail du château en Allemagne, un manifeste qui va véritablement mettre le feu aux poudres et réveiller les consciences de l'ensemble de l'Europe et en particulier de la Flandre.
bijgeworpen, vergeten paradijs. Van duizend kleine dorpen onder wolken grauw en grijs. Met donkergroene heuvels vervagend in de lucht. Soms wondermooi beschilderd met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen zo mals en ruisend meer. En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand, zacht golvend als water, is Vlaanderen een land. Luisterend naar de regen die langzaam nederzijgt, luisterend naar de nacht die in het duister hijgt, word ik een kuil vol dromen, verglijdend langs de tijd. Ik hoor rivieren stromen en zingen van tederheid. Want golvend als het water ligt mijn land aan de zee. Ze neemt papieren bootjes al dansend met zich mee. Die ik als knaap liet varen, beladen met een droom. Maar die nooit wederkwamen, zij bleven enkel de droom. Misschien dat zij vernamen mijn kinderlijk verdriet. Want alle winden zingen een wild en lachend lied. Langs de velden en langs het wassend geraam. En laten de papavers vol rode gensters slaan. Soms breekt de hemel open vol gouden zonnelicht. De wijde vlakte worden een heerlijk vergezicht. Begrensd met groene bomen waarop de hemel rust. Vol donkerblauwe dromen, vol tijdeloze rust. Uit de tijd geworpen, vergeten paradijs. Van duizend kleine dorpen, onder wolken grauw en grijs. Met donkergroene heuvels, vervagend in de lucht. Soms wondermooi beschilderd met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen, zo mals en ruisend neer. En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand. Zacht golvend als water is Vlaanderen mijn land.
Will Thura, vous interprétez Vlaanderen mijn land, la Flandre mon pays. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons les retables de Flandre. Et donc, pour expliquer, bien sûr, l'expansion de ce type de retable au cours du XVIIe siècle en particulier, eh bien, il faut bien sûr revenir un petit peu en arrière et comprendre ce qui s'est passé au XVIe siècle en particulier avec, les mouvements de colère qui ont réveillé les consciences, en particulier animés par le moine Martin Luther, qui est certes d'Allemagne. Alors, je vous rappelle que en ce temps-là, donc la Flandre faisait partie des 17 provinces, qui elle-même faisait partie du Saint-Empire germanique, avec sa tête en particulier Charles Quint, hein, qui est né à Gand, il était comte de Flandre, empereur bien sûr du Saint-Empire germanique, et fervent catholique. Selon Martin Luther, évidemment, les indulgences qui sont donc mises en place par les autorités catholiques, eh bien, détournent tout simplement les pratiquants de leur véritable devoir, à savoir la pénitence et la charité envers les autres. Martin Luther affiche ses thèses sur la porte du château de Wittenberg. C'est le début d'une véritable révolution. Hein. Ça va véritablement prendre comme un feu de poudre. Martin Luther conteste l'accès au paradis par des dons d'argent, mais il estime que c'est l'accès au paradis, c'est par la grâce de Dieu tout simplement. Les réformes demandées par Luther et aussi par Calvin ont un écho très favorable en Flandre. Et c'est ainsi que les autorités catholiques, évidemment, voyant arriver ces contestataires, vont commencer à mener une politique de répression qui sera de plus en plus violente. Alors la violence appelle la violence. Évidemment, les protestants ne vont pas se laisser faire, ils vont se rassembler. Et c'est ainsi que, par exemple, en 1566, ce sont les églises qui vont être saccagées, on renverse les statues, on détruit des tableaux représentant les saints. Les protestants, évidemment, s'arment, et on va d'ailleurs les surnommer les gueux, qui vont, bien sûr, s'organiser en véritable armée, et pour lutter justement contre les excès de certaines confréries catholiques, pour en particulier donc de cette politique des indulgences. Alors, comme on peut l'imaginer, bien sûr, les autorités catholiques ne vont pas rester les bras croisés. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ils vont mener une répression particulièrement féroce, surtout lors du règne de Philippe II d'Espagne, pour notre région, une répression particulièrement douloureuse, puisqu'il va faire venir un noble qui s'appelle le duc d'Albe, qui va lui mener une véritable politique de chasse aux sorcières, dresser donc des bûchers. C'est une répression terrible qui aura des conséquences évidemment aussi économiques pour la Flandre, car on peut bien imaginer que les gens, eh bien, devant de tels acharnements, eh bien, ne vont pas rester se faire arrêter, ils s'enfuient. Ils partent ainsi aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud, dont d'ailleurs on peut encore aujourd'hui retrouver en particulier des communautés avec une langue très proche d'une flamand néerlandais, l'Afrikaans. Les autorités de l'époque mènent donc cette terrible répression. Ils vont créer d'ailleurs ce qu'on appelle le Conseil des Troubles ou Conseil du Sang. Donc ils vont mener des arrestations très nombreuses. D'autant plus que le feu qui avait commencé en août 1566, en particulier avec Steenvoorde, où on peut parler ici de véritable crise iconoclaste, hein, puisqu'on détruisait toutes les représentations des saints, de la Vierge, du Christ, parce que on estimait que les gens n'adorait plus Dieu, mais adorait les images, en définitive, pour faire court. Alors, en août 1567, comme je viens de l'annoncer, tout simplement, il y a le sinistre duc d'Albe qui va arriver en Flandre et qui va pourchasser les hérétiques, saisissant leurs biens et puis de véritables poches de protestantisme vont être créées en Flandre, en particulier des villes comme Gand, Ypres, Bruges, mais aussi Dunkerque, seront donc des bastions du protestantisme, et c'est bien sûr ces villes qu'il va falloir reconquérir dans le sang.
entendre le groupe Hopland. Vous interprétez une musique traditionnelle de Flandre intitulée Les Gueux. Et vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3.
Et oui, les Gueux qui, évidemment, ont plusieurs bastions en Flandre, en particulier donc à Gand, à Bruges, mais aussi à Dunkerque, aussi Lannoye, tout près de Roubaix. Et donc, évidemment, les autorités politico-religieuses catholiques veulent bien sûr supprimer ces poches de résistance. Et ils font appel à un terrible chef de guerre, Alexandre Farnèse, qui va non seulement reconquérir la Flandre au catholicisme par les armes, mais aussi l'homme est habile, il va entreprendre une politique de ce qu'on appellerait aujourd'hui une rééducation pour en fait bien sûr rallier les gens à la foi catholique. Donc c'est à la fois main de fer et gants de velours, et donc il va petit à petit donc reconquérir la Flandre, et la Flandre va aussi voir arriver de très nombreux ordres religieux, en particulier les jésuites, les carmélites. Et c'est ainsi que la Flandre va se recouvrir de monastères et de couvents, car il s'agit bien sûr de tout simplement de éradiquer le protestantisme et remettre au centre du village la foi catholique. C'est le début donc de la politique de la contre-réforme. Et c'est ainsi que les églises de Flandre vont voir apparaître ces fameux retables, des retables qui sont donc des panneaux de différentes matières qu'on va se servir pour bien sûr impressionner les paroissiens. C'est du bel ouvrage, on souvent fait appel bien sûr à des matériaux nobles comme le chêne, on met aussi du marbre pour les plus riches. Bien sûr, on fait appel aux essences locales comme le tilleul, l'aulne, mais on soigne particulièrement le décor car il faut faire du beau, il faut impressionner bien sûr le paroissien quand il va rentrer dans l'église, il faut reconquérir tout simplement les âmes comme on dit, et on n'hésite pas à faire appel en particulier à des grands artistes comme en particulier par exemple Rubens, Van Dyck vont faire partie de ces artistes qui vont mettre leur talent au service donc de la contre-réforme. Eh bien, nous allons donc voir un petit peu à quoi ressemble ce schéma d'un retable. Alors, tout d'abord, il est tout en bas, ce sont les marches sur lesquelles repose l'autel. Ensuite, c'est le prédel, ce sont des panneaux de bois où on va retrouver au centre le tabernacle. Le tabernacle est une petite niche où l'on met les ciboires avec l'hostie sacrée. Et ensuite, c'est le fameux tableau d'autel où là, naturellement, il y aura les panneaux qui seront donc peints, des statues aussi. Alors, suivant bien sûr la richesse de l'église, sont plus ou moins imposants, évidemment. Et tout cela est surmonté de ce qu'on appelle le couronnement, à savoir donc en fait la représentation du paradis avec ses angelots, ses fleurs, et le tout surmonté bien sûr de la croix catholique. Donc c'est un ensemble architectural particulièrement imposant, aussi bien par sa taille que par la beauté et par sa richesse de décor. On y trouve bien sûr plusieurs formes, c'est seulement un tableau qui a été peint, mais ça peut être aussi un triptyque, voire même plusieurs panneaux qu'on peut d'ailleurs plier, refermer et qu'on ouvre simplement lors des grandes cérémonies.
Gehield voor de reis, B is de boei die de vaarkeul aanwijst, C de kompas snel naar noorden gedraaid, en D is
het dek dat naar Island ons draagt,
valt in Lady's Valdelidoom.
Ede Estaiers die leiden het zeil, F is de flesje met grootzeil erbij. G de galette gehesen in twand, en H is de honden voor koog in de mast,
valt in Lady's Valdelidoom.
Staat voor de inhalersknoop. J is het joltouw van achter de boot. K is de kabelstag hoog in het wand. En L zijn de lijnen gestouwd in de mand.
Val die dee, val die dom.
En de matrozen die het zware werk doen. En de novice die krijgt half rantsoen. En oud-officieren met de kapitein. En P is ons pree voor alle te klein.
Val die dee, die val die do.
Kwartieren, we moeten aan het werk. De schipper, de stuurman, die zijn al aan dek. Novice en schipsjongen, de vissers, de kok. De kuipers en zouters verlaten het hok.
Val die dee, die val die dood.
Er zijn de raas met de gaffels en het hout. S is de steven, de stakken, de schoot. T trekt het tuigwerk met nagels omhoog. En U is de uitkijk in kraaien en stroof.
Val die dee, die val die doo.
W is de wind als een V is een vracht. X is Xantippe die thuis op ons wacht. Y is de ijzer en Z is de zee. Zo varen we weg het veilige ree.
Val die dee.
Van die poort
val die dee, die val die dee, die val die dee, die val die dee, die val die dee.
Vous venez d'entendre une suite islandaise. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus et de l'émission L'heure flamande.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons donc le retable en Flandre, la Flandre ayant une grande concentration donc de ce type de monuments dans ces églises, même si de nombreux retables malheureusement ont disparu. Ils ont connu leur âge d'or lors de la contre-réforme, donc cette politique menée par les autorités religieuses catholiques pour contrecarrer le protestantisme qui avait pris une grande vigueur ici en Flandre, avec des mouvements particulièrement forts, au point de prendre des villes entières telles que Gand, Bruges, Dunkerque, le comté de Lannoy, près de Roubaix, et d'autres postes, comme on parlait de Stenvoorde tout à l'heure. Et évidemment, face à l'engouement des gens pour la nouvelle religion, la religion réformée, évidemment, les autorités de l'époque ont voulu, arrêter cette épidémie, si j'ose dire, et ils ont mené donc non seulement par les armes, mais aussi par une forme de rééducation menée donc pour reconquérir les âmes des Flamands. Et donc il y a la mise en place de ces fameux retables. Alors les retables évidemment existaient déjà depuis le Moyen-Âge, mais ils n'avaient pas le faste qu'ils vont connaître au cours du XVIe et XVIIe siècle en particulier. Auparavant, les retables étaient simplement des petits panneaux sur l'autel, le maître-autel, qui représentait bien souvent le saint local. Mais ce type de monument va prendre vraiment son essor donc langue lors de la contre-réforme, et là il va être particulièrement très imposant, hein, donc puisqu'au-dessus de l'autel il y aura ce qu'on appelle le prédel. Alors le prédel, c'est une partie donc qui est juste en dessous du tableau de l'autel, et qui est composée de plusieurs petites niches, de petits tableaux, et dans la partie centrale se trouve tout simplement le tabernacle, où l'on met bien sûr le ciboire avec l'hostie, le Saint-Sacrement, les hosties donc sacrées. Et bien souvent, de chaque côté, on met des statues avec des anges qui portent un cierge pour apporter la lumière et donner bien sûr beaucoup de majesté, et aussi pour encore une fois impressionner le paroissien. Et au-dessus, évidemment, selon la richesse de l'église, on va trouver des fameux tableaux, souvent des triptyques que l'on ferme lors des dimanches ordinaires, mais lors des grandes fêtes comme Pâques, Noël, etc., naturellement, on va rouvrir ces panneaux, et c'est un véritable livre d'images, puisque on peut retrouver des scènes, la nativité, bien sûr la crucifixion, la résurrection du Christ, etc., donc toute la vie que l'on peut lire à travers la Bible. Là encore une fois, c'est le but premier, c'est de naturellement éduquer le peuple à travers les images. Alors la Flandre a ceci de particulier, puisque avec le traité d'Utrecht, la Flandre, elle est coupée en deux parties. Une partie qui est donc rattachée au royaume de France, mais une autre partie qui reste dans les Pays-Bas méridionaux. Et chose particulière, jusqu'au concordat signé par Napoléon, par exemple, les frontières ne sont pas les mêmes que celles des États, puisque, par exemple, la ville de Bergue, dépend du diocèse de Ypres. Donc, on est au-dessus des frontières, et ceci, donc, jusque le concordat. Si bien que, on trouve le même type de retable aussi bien sur la partie dite aujourd'hui Flandre belge que la partie Flandre française. Et il y a tout un réseau donc d'églises aujourd'hui qui font partie d'un circuit que l'on peut naturellement découvrir ces retables, mais malheureusement avec les saccages réguliers que les églises sont victimes, elles ne sont pas toujours ouvertes, et donc il vaut mieux se renseigner pour pouvoir bien sûr les visiter, ce que nous ferons tout de suite après cette page musicale.
Ik weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, een huis met een put en een boom. Ik ken alle kamers van buiten, ik heb het gebouwd in mijn droom. Het ligt in het dal van de zuchten, de dieren die spreken een tel. De wind waait een lied door de luchten, de zon zingt een oud madrigaal. Ik weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, een huis met een bron en een stroom. Geen mens die het verhaal wil geloven, maar ik heb het gebouwd in mijn droom. Ik hoor er de stem van het water, het maakt alle gras donkergroen. Ik heb er geen zorgen voor later, elk jaar is een heel groot seizoen. Een oud huis in Nieuw-Zeeland, het staat onder wolken van room. Ik durf het aan niemand vertellen, maar ik heb het gebouwd in mijn droom. En worden mijn liedjes soms bitter, en zing ik met schampere mond. Dan droom ik mijn huis nog wat witter, en ik hoor weer het lied van de grond. Ik weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, en hij zal zijn klooster zo vroom. Ik prevel er oude gebeden, ik heb het gebouwd in mijn droom. Als avonds de doodsklokken luiden en ben ik die doodsklokken moe, dan rijk ik de zacht warme kruiden, dan moet ik er even naartoe. Dat huis is mijn laatste haven, dat huis is mijn tederste kroeg. Ik kan er mijn dorst altijd laven, er is altijd leeftocht genoeg. Ik heb er een vrouw en vier kinderen, en liefde en brood, wijn en kaas. Daar wonen ook mijn beste vrienden, maar twee zijn begraven helaas. Een oud huis in Nieuw-Zeeland uit 1710. Ik heb het gebouwd in mijn dromen, maar ik zou het eens echt willen zien.
Bill Coles, vous interprétez une vieille maison en Nouvelle-Zélande. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons donc les retables de Flandre. Il existe d'ailleurs à ce propos une association qui travaille depuis déjà de nombreuses années à la restauration justement de ce patrimoine en particulier. Donc ça s'appelle Retables de Flandre et elle se situe donc à Dunkerque. Je vais vous donner ici les références, le site internet, donc c'est www.retablesdeflandre, table avec un S, donc retables de Flandre, tout collé.fr. Et donc, vous pouvez bien sûr les contacter pour savoir quand les églises sont ouvertes, car malheureusement, trop souvent, eh bien, elles sont saccagées. Et donc, il est nécessaire de préserver ce patrimoine. Et donc, les églises sont fermées et ne peuvent être ouvertes que sur demande express, soit par un groupe. Vous pouvez aussi contacter le numéro de téléphone suivant, le 06 27. 71 25 38 06 27 71 25 38 pour éventuellement faire des visites de groupe, pourquoi pas. Alors je vais citer bien sûr pas toutes les églises car on n'a pas le temps suffisant bien sûr pour évoquer tout ça, mais certaines églises sont particulièrement remarquables par leur justement leur retable. Là, c'est ainsi par exemple vous avez l'église de Bolezel, donc église paroissiale Saint-Vendril, où vous avez donc un retable de l'hôtel qui est consacré à la Sainte Famille, date de 1619. Vous avez un autre retable qui est à Pitgam, c'est un retable consacré lui à Saint-Nicolas, qui date de la deuxième partie du XVIIe siècle, qui a été entièrement rénové, qui lui aussi, dans cette petite église, eh bien, est un monument particulièrement remarquable. Vous avez aussi à Zermezel, Oscapel qui est donc tout près de Onscott, l'église de Sox à Steinberg, Onscott bien sûr. Alors à Berg, vous avez bon malheureusement l'église, elle a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc malheureusement c'était assez endommagé, mais néanmoins l'église est assez remarquable. Vous avez aussi bien sûr l'église consacrée à Notre-Dame de l'Assomption à Warem, dont Warem est tout près de Berg. Vous avez vers Bourbourg, donc en allant vers Calais, donc vous avez l'église de Broekerk qui est consacrée à Saint-Omer. Oudkerk également, sans oublier l'église de Herzel. Herzel, c'est dans le secteur de Berg. Et bien sûr la collégiale de Cassel, alors, que je vous recommande tout particulièrement parce que non seulement bon, il y a le retable qui est magnifique, mais le bâtiment est aussi remarquable par déjà disons son architecture et puis aussi par les nombreux panneaux. D'ailleurs, vous allez retrouver des panneaux écrits en langue flamande. Vous avez plus loin donc à Octezel, là aussi des retables remarquables. À Krocht, donc Krocht c'est pas loin de Berg également. Quadipre qui a lui récupéré du mobilier de l'ancienne abbaye Saint-Minoc qui a été ravagée lors de la Révolution française, et aussi donc l'église de Vescapelle, église Saint-Sylvestre. Et donc là on a cité que quelques églises, hein, mais c'est vraiment faire un circuit en particulier donc ici l'été, donc au mois de juin ou juillet, donc c'est une façon aussi de découvrir ce beau pays de Flandre. Et donc, bien sûr, je vous conseille de regarder sur le site de l'association donc Retables de Flandre pour vous assurer que l'église sera ouverte et pour vous accueillir et vous faire admirer donc ce magnifique travail que sont les retables. L'émission touche bientôt à sa fin. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus. Un livre aussi que je vais vous recommander qui va vous permettre de connaître un petit peu cette histoire des gueux en particulier. C'est le livre de Éric de Heuninck qui s'appelle La Flandre protestante. Alors c'est un livre qui permet, eh bien, parce qu'on l'apprend pas tellement à l'école tout ça, c'est eh bien justement il évoque ces pages douloureuses, hein, que notre région a connues. C'est une histoire qui est un petit peu effacée, comme il écrit lui-même. Ça, on ne l'évoque pas dans les cours de classe. On parle bien sûr de l'édit de Nantes, mais ça s'arrête là. Et c'est vraiment très très bien fait, très bien écrit, avec de nombreuses illustrations. Et ça permet aussi de mieux comprendre notre histoire, tout simplement. C'est reprendre possession un petit peu de notre passé. Donc le livre, c'est La Flandre protestante. Des gueux à nos jours. C'est un guide, donc il s'intitule comme guide pratique, historique et patrimonial, donc écrit par Éric de Heuninck. Donc vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, et qui permet aussi de vous aider à faire cet itinéraire du protestantisme, car ça a été vraiment des moments très très forts dans notre histoire de Flandre, et on reste encore plus ou moins des traces. Certes pas, il faut bien regarder, mais on peut comprendre, et les retables de Flandre, eh bien justement, sont des témoins de ces années troubles, de ces années difficiles que notre région a traversées. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes donc de Radio Plus.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen.
tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Vlaanderen is dat vlakke land dat de dichter ooit bezong. Vlaanderen, mijn vaderland, waar voor mij de tijd begon. Vlaanderen, geen paradijs, ook geen hemel hier op aarde. Vlaanderen, onmogelijk klein, is voor mij de wereld waard. Vlaanderen is als een sterke rots die midden in de branding staat. Vlaanderen.